Merci pour les chants. Merci pour la prière. Et c'est vraiment, oui, ce que l'on désire, c'est entendre la voix du Seigneur et le connaître mieux. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour un premier texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Le contexte, c'est le moment où des pharisiens, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et Jésus va la libérer de ces hommes-là et l'affranchir. Et plus loin, au verset 31, il va parler aux Juifs qui ont cru en lui. C'est Jésus qui parle, Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je vais vous lire un deuxième texte dans la deuxième épître de Pierre, « Ne le cherchez pas ». C'est au chapitre 2, au verset 1er, Pierre parle de faux prophètes. Il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Et plus loin, au verset 18, il parle toujours de ces hommes-là, et il va dire « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et je vous invite à aller dans le psaume 35, gardez la page de Jean 8, mais dans le psaume 35, au verset 10, il est écrit, c'est David qui fait cette déclaration, « Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Amen. Voilà, ce soir on va parler d'esclavage et de liberté. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les trois textes que l'on a lus, il est parlé d'esclaves et de liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Dans ces trois textes, il est parlé d'esclaves, de captivité. Alors, juste pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est une personne qui est au service d'un maître, et le plus souvent, c'est d'une manière forcée. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Un esclave, c'est quelqu'un qui est obligé de faire ce qu'il ne veut pas. D'accord? Trois choses. Au service d'un maître, pas la liberté de faire ce que l'on veut, et obligé de faire ce que l'on ne veut pas. Et le contraire d'être esclave, ou prisonnier, ou captif, c'est être libre, libre. Et on connaît tous des exemples dans l'humanité, il y a toujours eu de l'esclavagisme, plus ou moins, enfin c'est jamais de belles choses, et même encore aujourd'hui, on sait très bien que officiellement et officieusement, il y a toujours ce genre de choses. Alors à la lumière de cette définition, je vais vous poser une question. Êtes-vous libre ou êtes-vous esclave? That is the question. Êtes-vous libre ou êtes-vous esclave? Dans un premier temps, vous pourrez dire, on est libre. Je suis né dans un pays libre. Personne m'a forcé à venir ici, j'espère. Et après la réunion, je ferai ce que je veux. Je suis libre. J'ai aucun maître au-dessus de moi, donc je suis libre. C'est ce que vont répondre les Juifs à Jésus. Ils vont dire, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Et là, Jésus va dire une grande vérité. D'ailleurs, il va dire « En vérité, leur répliqua Jésus, Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus va révéler un maître qui est invisible et qui pourtant est bien réel. Ce maître, c'est le péché. Pierre va dire, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La vérité, c'est que l'homme sans Jésus est esclave d'un maître, on va dire d'un tyran, que Jésus appelle le péché. La Bible dit que tous les hommes ont péché et qu'à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a l'apôtre Paul qui va parler de cet esclavagisme du péché. Il va dire, c'est dans Romains 7, au chapitre 14, il va dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle. De quoi il parle ? Il parle de la loi que Dieu a laissée aux hommes. C'est par cela que Dieu définit ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, tu ne voleras pas. Tout le monde est d'accord que voler, c'est mal. Tu ne mentiras point. Tout le monde est d'accord que mentir, c'est mal. Tu ne convoiteras pas la femme, le bœuf, l'âne de ton voisin. Tout le monde est d'accord que ça, c'est bon. Et si tout le monde respectait ses commandements, on vivrait dans un monde parfait. Repose-toi le septième jour. Tout le monde est d'accord qu'avoir un jour pour se reposer, c'est une bonne chose. Honore ton père et ta mère. Mais c'est une bonne chose. La loi, elle est bonne. Elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. Mais que va dire Paul ? Il va dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu. Ça veut dire que Paul dit qu'il est esclave du péché. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voilà la condition d'un esclave. Esclave du péché. On sait que ce que Dieu dit est bon, et pourtant, on ne peut pas, on n'arrive pas à faire ce que la loi le dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un maître et un tyran qui s'appelle le péché. Il continue, verset 16, « Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. » Paul n'a pas la liberté de faire le bien. Car, et là il répète, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » On voit bien là un homme qui ne peut pas faire ce qu'il veut, qui est forcé, contraint de faire le mal qu'il ne veut pas et qui n'arrive pas à faire le bien qu'il veut. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et on voit que Paul avait fait un choix, le choix d'obéir à Dieu. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave, de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et là, Jésus dira, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et vous savez, le cheminement vers la liberté, il y a un point de départ. Et la point de départ, c'est la vérité. C'est d'être vrai, c'est d'être honnête. Si vous ne réalisez pas, si vous n'admettez pas que vous êtes sous l'esclavage, alors comment est-ce que vous allez chercher à être libre ? La liberté commence toujours par un constat, et le constat, il suffit simplement d'être honnête. Suis-je libre ou suis-je esclave ? Suis-je libre par exemple, est-ce que comme Paul, je peux dire, ben oui, c'est vrai, je fais pas le bien que je veux, je respecte pas mes parents, j'y arrive pas. Je suis esclave de vice, c'est plus fort que moi. Je suis comme entraîné, poussé vers le fond, jour après jour, ça se dégrade, je n'y arrive pas à m'en sortir. Je suis tenu par la drogue, les addictions, j'aimerais bien m'en sortir, mais je peux pas. Donc si vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes esclave. Je suis tenu par une passion, qui est peut-être pas forcément mauvaise. Prenons un exemple, quelqu'un qui serait passionné par les timbres. Bon, en soi, je vous dirais ça, je dis, c'est pas bien grave. mais cette personne, elle ne peut pas s'en sortir, elle est obligée de le faire, c'est impulsif. Mais oula, il y a un souci. Esclave. Esclave du péché. La Bible, elle parle aussi d'un autre maître. Il s'appelle le diable. Et effectivement, à cause du péché, l'humanité a donné accès à l'ennemi de nos âmes. On a un texte où il est parlé justement d'un homme qui était esclave d'un esprit impur, ou plutôt de plusieurs esprits impurs. C'est écrit dans Marc au chapitre 5, verset 1 à verset 5, je vais vous le lire. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, donc c'est Jésus et ses disciples, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé, ça veut dire soumis, esclave, d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors on pourrait se dire, cet homme, il était libre. Aucune chaîne n'était capable de le retenir. C'est pas la définition de la liberté aujourd'hui, dans notre monde. Je fais ce que je veux. Et on voit qu'au final, cet homme, aucune chaîne le retenait, mais il y avait des chaînes qui étaient beaucoup plus fortes que ce que les hommes pouvaient penser. Cet homme était soumis à un mauvais maître. Et là, on voit très bien l'œuvre du diable. Et si on regarde le monde, parce que le diable est aussi appelé le prince de ce monde, on voit que ce monde est entraîné. Qu'est-ce qu'il faisait, cet homme? Il vivait dans les sépulcres. Il y avait une fascination pour la mort, pour les choses de l'au-delà. Regardez dans le monde, c'est ce qui se passe, de plus en plus. Il s'automutilait, il se meurtrissait lui-même. Vous regardez dans le monde, les hommes sont poussés à s'autodétruire. Ils se détruisent eux-mêmes. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Il ne se reposait pas. Toujours dans l'agitation. Sans cesse, nuit et jour. Si on lit dans la même histoire dans Luc, on voit qu'il était sans vêtements. L'impudicité, la nudité. Ça augmente. Ça vient de quelque part. Hein. Personne n'avait la force de le dompter. La violence. La violence augmente. Et il était tout seul, la solitude. Il y a tant et tant de moyens de communication, et pourtant les gens sont tant et tant isolés. Si on regarde l'humanité sans Dieu, qui a rejeté Dieu, on voit qu'elle est enchaînée et entraînée vers le bas parce qu'elle n'est pas sous la domination de Dieu. Et troisième point, des fois on peut être enchaîné à cause des situations, bloqué dans des situations, pas forcément à cause de l'ennemi, pas forcément à cause du péché, mais tout simplement parce que l'on est dans une situation difficile. Et on peut regarder David, on peut voir combien, même en étant intègre, il a pu être bloqué. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait parce qu'il y avait des situations qui étaient difficiles. La Bible dit, je reviens au péché, parce que de tous ces formes d'esclavagisme, le plus violent, c'est pas le diable, c'est le péché. Le péché. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que au travers de ce texte, je parle d'esclavagisme, donc je mets l'emphase sur l'aspect victime. Mais vous savez, le péché, même si c'est le diable qui nous pousse, c'est quand même nous qui choisissons. Et avec le péché, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi la culpabilité. Et il y a des chaînes qui sont les chaînes de la culpabilité. À cause des choix que nous avons faits, on peut se retrouver captif, bloqué, enchaîné, stoppé à cause de la culpabilité. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce soir, comme on a lu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, la vérité, c'est pas ce que je dis, c'est ce que la Bible dit, a le pouvoir de vous affranchir. Et ce soir, maintenant, les chaînes peuvent tomber à cause de la vérité, de la parole que l'on lit. Alors quand on est esclave, quand on est esclave, quelle que soit la forme que l'esclavage, on peut poser cette même question que Paul a posée, qui me délivrera? Quand on est esclave, eh bien, pour sortir de cette situation, on a besoin d'un libérateur, on a besoin d'un sauveur. Et comme disait Nicolas, l'évangile c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que Jésus c'est le libérateur. Juste après, Paul dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui libère, c'est Jésus, comment? C'est Dieu, comment? Au travers de Jésus-Christ. Quand Jésus va commencer son ministère, on va le lire ensemble, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Il va lire un texte pour introduire son ministère. Luc, chapitre 4. Et on va lire au verset 16. Il est écrit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce soir, c'est encore jour de grâce. Jésus est venu publier la délivrance. C'est l'œuvre de Jésus. Délivrer le captif, renvoyer libre l'opprimé. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, maintenant, éternellement. Et Jésus, ce soir, peut rendre libre le captif, libre l'opprimé. Si donc le Fils vous affranchit, j'ai envie de dire ce soir, vous serez réellement libre. Et on l'a chanté, la vraie liberté. Pas celle que le monde donne, celle que Dieu seul peut donner. Et vous serez réellement libre. Non pas à cause d'une religion, non pas à cause de l'église évangélique, vous serez réellement libre parce qu'il y a, il y aura et il y a déjà eu une œuvre de Jésus. Et cette œuvre, vous en doutez, c'est la croix. Psaume 35. Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Eh oui, le péché c'est plus fort que nous, c'est pour cela qu'on a besoin d'un sauveur. Vous pouvez essayer de le faire par vous-même, vous n'y arriverez pas, c'est impossible, parce que il c'est plus fort que nous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est le moyen. Rédemption, c'est quoi la rédemption? C'est être délivré, affranchi par un rédempteur. Donc si je vous dis ça, ça vous arrange, ça nous avance pas trop. C'est quoi un rédempteur? Un rédempteur, c'est quelqu'un qui rend libre, pas n'importe comment, qui rend libre en payant un prix. Je répète, le rédempteur, c'est celui qui rend libre en payant un prix. Le moyen que Dieu a utilisé pour nous libérer, c'est de payer un prix. Quel a été le prix? Jésus-Christ à la croix. Pour que nous puissions être libérés, il devait y avoir un prix payé. Ce prix payé, c'est la mort de Jésus à la croix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, il est écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Votre vie a un grand prix. » Prendre un exemple, j'ai déjà pris, mais c'est pas grave. Quel est le prix de cette Bible? Ben, c'est le prix que je l'ai payé. Quel est le prix de votre vie? Ce que Jésus a payé. Peut-être vous dites, ben, moi je vaux rien, parce qu'il y a le péché, je fais tellement de choses qui sont pas bien. Et pourtant, Jésus a payé le prix. Le prix de votre vie aux yeux de Dieu, c'est pas quelque chose de vain, c'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est au contraire, il a tout donné à la croix pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez être avec lui. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'ai à cœur qu'on lise le psaume 107, parce que dans le psaume 107, il y a justement les quatre types de problèmes qu'on a, de chaînes, d'esclavage, qu'il peut y avoir dans une vie, et on voit qu'au final, c'est toujours la même solution. Et quel que soit le type de difficulté, le type de chaîne que vous pouvez avoir dans votre vie, il y a toujours une seule et même solution. C'est le psaume 107. Ça commence et il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Verset 2. « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Ça, c'est le diable. Ceux qui sont captifs du diable. « Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude. » Ça fait penser au possédé de Gadara. Sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel. Après, il y a la louange. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés. Ça, c'est le péché. Contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Eh oui, c'est vrai qu'il y a le péché, il y a la rébellion. C'est quand on résiste à Dieu. Mais même si vous avez résisté à Dieu, quand vous criez à l'Éternel, il délivre, parce que l'Éternel est bon. Verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable, ça c'est les chaînes de la culpabilité, et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour ses merveilles en faveur des fils d'Élom. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Et quatrièmement, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Alors ceux-là, ils n'ont rien fait de mal. Ils travaillent. Ça, c'est ceux qui servent, c'est les chrétiens. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe ? Il dit et il fit souffler la tempête, qu'il souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Eh oui, piégés dans une tempête. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les ondes se turent. Et ensuite, il loue l'Éternel. Voilà. Quelle que soit la chaîne, quel que soit le lien, quel que soit le type d'esclavagisme, le Seigneur est capable de délivrer. Mais on voit que dans ces quatre cas, il y a une chose qui est commune, c'est qu'ils ont tous crié à l'Éternel. Ils ont fait un choix. Car vous avez été, dans 1 Corinthiens 6, verset 20, on l'a lu tout à l'heure, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors on pourrait dire, oula, c'est contradictoire. Parce que je suis libéré d'un côté et j'appartiens à quelqu'un d'autre. Eh ouais. Parce que pour sortir de l'esclavage, eh bien, on a besoin de se mettre sous un nouveau maître. Mais vous savez, Jésus, c'est pas du tout la même chose que le diable. Et c'est pas du tout le même maître. Jésus va dire, c'est dans Jean 15, chapitre 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, on pourrait dire esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On voit deux choses. Qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Et en plus, on n'était pas ses amis. On était ses ennemis par nos péchés. Mais on voit aussi le but de Dieu qui n'est pas de faire de nous des esclaves, mais qui est de faire de nous des amis. C'est-à-dire que ce qui importe pour Dieu, c'est pas tant qu'on le serve, c'est qu'on ait une relation d'amitié, d'amour, avec lui. Pourquoi il nous demande de lui obéir? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, les commandements de Dieu sont bons, et ils sont bons pour nous. Dans Ésaïe 48, verset 18, il est dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, » c'est Dieu qui parle, « ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Si Dieu nous demande d'obéir, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Et vous savez, l'homme que l'on est, on a été créé pour servir. Et l'homme, c'est un serviteur. On sert toujours quelqu'un. Si c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais Dieu, lui, il veut pas nous utiliser pour sa gloire. Ce que Dieu veut, enfin ce que Dieu a fait, c'est se sacrifier lui-même pour nous. Un roi qui se sacrifie pour ses serviteurs. C'est ce que Dieu a fait. C'est pas du tout le même maître. On a vu tout à l'heure que le diable, il pousse à la mort, Jésus, il pousse à la vie. Le diable pousse les hommes à s'autodétruire. Jésus nous aime et nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que lui nous a aimés. Le diable, il pousse dans l'agitation, le manque de repos. Jésus nous apporte le repos. Le diable nous pousse dans l'impudicité. Jésus, il nous rend notre dignité et il nous revêt. Le diable pousse dans la violence. Jésus nous amène la paix. Le diable isole, Jésus nous donne une famille, la famille de Dieu. C'est pas du tout le même maître. Et Jésus aussi nous laisse libres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous savez, c'est quoi la première caractéristique de l'amour dans 1 Corinthiens 13? L'amour est patient. Ben, Dieu patiente. Et je pense que pour nous qui sommes sauvés, combien on est reconnaissant que Dieu ait patienté. Et pour vous qui n'êtes pas sauvés, sachez que Dieu patiente. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, parce qu'il vous aime, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais vous savez, la patience, ça ne veut pas dire que c'est illimité. Ça prendra fin. Parce que tout à l'heure, on a lu la première partie du ministère de Jésus qui est maintenant, ce soir, de faire grâce, de libérer, de sauver, mais il viendra un jour où il y aura la colère. Et la patience s'arrêtera, c'est normal. Parce qu'il faut qu'il y ait un jugement, il faut que les mauvaises œuvres soient jugées. Donc, vous en avez tout le choix au final. C'est Josué qui parlera au peuple d'Israël, et il leur dira, dans Josué 24, au verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel », ça veut dire « respectez-le ». Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ce soir, je fais comme Josué. Je vous dis, choisissez qui vous voulez servir. Si vous faites le choix du péché, Dieu vous laissera libre et vous avez toute la liberté de le faire. Mais il y aura les conséquences que j'ai déjà énumérées, mais sachez que Dieu patiente. Mais vous ne savez pas jusqu'à quand et quelle est la durée de votre vie. Si vous faites le choix de Jésus, alors sachez que personne ne peut vous empêcher de l'avoir pour maître. On a vu qu'il y avait un homme qui était possédé de 1000 démons, et c'est pas les 1000 démons qui ont empêché cet homme de prendre Jésus pour maître, parce que Jésus les avait déjà vaincus. Le péché, Jésus l'a déjà vaincu. Le monde, Jésus l'a déjà vaincu. Et votre épreuve, Jésus a autorité dessus. Rien ne peut vous empêcher de faire de Jésus votre sauveur et votre Seigneur. Absolument rien. Alors, que dira Josué? Il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma prière, c'est que ce soir, vous puissiez faire le choix de servir l'Éternel. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, non pas un service forcé, mais un service fait avec amour, parce que le Seigneur, lui, il nous aime. Merci Seigneur pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que elle puisse pousser à faire ce choix de te choisir comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur Jésus, encore ce soir, fais-nous grâce. Nous avons entendu ta parole. Ta parole est la vérité et tu dis que la vérité nous rendra libres. Alors Seigneur, selon ta parole, qui est la vérité, que ce soir, s'il y a des chaînes, par ton œuvre à la croix, elles puissent tomber, Seigneur, et que les âmes soient réellement libres et puissent rentrer dans cette relation d'amour, de service pour toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait pour nous et nous qui t'avons choisi, Seigneur, c'est vrai que nous voulons te dire que nous sommes heureux de t'avoir pour maître, d'avoir un Seigneur qui s'est donné pour nous et nous voulons continuer à te servir. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne, car oui, notre salut, notre liberté a eu un prix, mais par amour, tu l'as payé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.